Qu'est-ce qu'on écoute à la technique?
Bah là, on va écouter un spécial dédicace à Lopi Fruit. C'est un Purcell interprété par Rosemary Stanley.
Big up Lopi Fruit.
My sweetest choice. Oh, solitude. Oh, solitude. My sweetest, sweetest choice. Places devoted to the night, remote from tumult and from noise, a human restless thoughts delight. Oh, solitude.
Nous vous rapportons l'histoire d'un voyage. L'expédition comprend un marchand et deux subalternes. Regardez bien comment ils agissent. Leur conduite vous paraît familière, découvrez-la insolite. Sous le quotidien, décelez l'inexplicable. Derrière la règle consacrée, discernez l'absurde. Défiez-vous du moindre geste, fût-il simple en apparence. N'acceptez pas comme tel la coutume reçue. Cherchez-en la nécessité. Nous vous en prions instamment. Ne dites pas « c'est naturel » devant les événements de chaque jour. À une époque où règne la confusion, où coule le sang, où on ordonne le désordre, où l'arbitraire prend force de loi, où l'humanité se déshumanise, ne dites jamais « c'est naturel » afin que rien ne passe pour immuable. Ça, c'était l'intro d'une pièce de théâtre de Bertolt Brecht qui a été écrite en 1930 et qui s'appelle « L'exception et la règle ». Elle est un peu longue à lire en entier à l'antenne, mais du coup, je vais vous lire les premières paroles qui vont placer le décor et puis après, je vais sauter 7 chapitres et on va arriver à la conclusion. Le premier chapitre s'appelle « Course de vitesse dans le désert ». Deux petites troupes, qu'une certaine distance sépare, luttent de vitesse dans le désert. Le marchand dit à ses deux compagnons de route, le guide et le porteur qui portent les bagages, « Allons, plus vite, feignant. Il faut absolument que je prenne un jour entier d'avance et que je sois après-demain à la station Han. Je suis le marchand Karl Langmann et je vais à Urga négocier l'achat d'une concession. Mes concurrents nous suivent de près. Le premier arrivé enlève l'affaire. J'ai fait le trajet jusqu'ici en un temps record et c'est à force d'habileté et d'énergie et en traitant mon personnel avec une rigueur impitoyable. Le malheur, c'est que mes concurrents ont presque atteint la même cadence. Il regarde derrière lui avec ses lunettes d'approche. Tenez, les voilà de nouveau sur nos talons. Au guide, il dit « Secoue donc un peu le porteur, c'est pour ça que je t'ai engagé. Vous n'êtes pas ici pour vous promener à mes frais. Tu sais ce que ça coûte un voyage pareil ? Évidemment, c'est pas votre argent. Mais prends garde, si tu fais du sabotage, je te dénonce au bureau de placement à Urga. » Voilà, donc on voit la trempe du marchand qui est avec son guide, qui du coup guide son trajet, et avec son porteur qui porte ses bagages. Donc lui, il ne fait pas grand-chose à part engueuler ses deux subalternes. Et ils arrivent bien à la station Han, la première étape, avant d'arriver à Urga en traversant le désert. Mais à la station Han, devant l'hôtelier de la station Han, le marchand décide de congédier son guide. Pourquoi ? Ben parce qu'il était solidaire du porteur. Il lui parlait gentiment et ça c'était assez inacceptable. Donc le guide est congédié. Mais comment vont-ils faire du coup s'il n'y a que le marchand et le porteur pour se diriger au travers du désert, s'il n'y a plus le guide pour les guider ? Eh ben, le guide explique au porteur, il lui dit « ça va être dur, Ça va être très dur le désert. Vous allez avoir soif. Tiens, prends une gourde. Ne le dis pas au marchand. Prends une gourde parce que quand lui aura fini la sienne, il va te prendre la tienne et il boira. Donc cache-la cette gourde. Et puis ben suis les puits. Essaye d'arriver jusqu'à Ourga en suivant les puits. Tu verras, il y a un fleuve. Ce fleuve, il est assez facile à traverser s'il n'est pas en crue. Quand il est en crue, il met 8 jours. Il faut attendre 8 jours avant de pouvoir le traverser. Donc voilà, mais le porteur, il trouve que c'est assez périlleux de partir dans le désert comme ça jusqu'à la destination finale. Mais il peut pas s'arrêter. Il n'a pas été payé, lui. Et, du coup, lui, il n'est pas syndiqué comme le guide. Du coup, il décide de continuer. Donc le marchand, vraiment pas gentil avec son porteur, continue la route. Il traverse cette rivière alors qu'elle était en crue. Et le porteur avait dit au marchand, elle est en crue, il faut qu'on attende au moins 8 jours. Et il était vraiment pas question d'attendre puisque la troupe de derrière, la deuxième expédition, pouvait arriver plus vite et donc prendre la concession à la place du marchand. Et donc, il serait ruiné. Et donc, il traverse cette rivière. Le porteur finit avec le bras cassé et il continue. Voilà. Et puis, bien sûr, comme le disait le guide, ils eurent soif. Et le marchand dit qu'il n'avait plus d'eau. Alors, il prit la gourde du porteur et en but aussi. Et là, le porteur était, on va dire humainement, se disait, mon maître a soif. Moi, j'ai une gourde, il ne le sait pas, mais du coup, je vais lui tendre ma gourde pour qu'il boive. Mais le marchand, en fait, il avait de l'eau dans sa gourde. Il avait fait croire à son porteur qu'il avait plus d'eau. Et pendant qu'il était tout seul, qu'il se disait ça, j'ai fait croire à mon porteur que j'ai plus d'eau. Il se disait aussi, il se remémorait quelle galère il avait fait subir à la fois à son guide et à son porteur. Et il se disait, en fait, là, on arrive près du but. Moi, j'ai tout à gagner à arriver. Mais le porteur, en fait, pour le salaire que je lui paye, il s'en fout, lui. Mais moi, je peux pas apporter tout ça. Mais il s'en fout vraiment. Et du coup, faut que je me méfie parce que, en fait, à la première occasion, il va me buter, quoi. Il n'a rien à perdre, même pas son salaire. C'est pas grand-chose. Et en plus, on est en train de crever de soif. Du coup, faut que je me méfie. Et puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il le voit. Il voit son porteur arriver et tenir quelque chose de lourd à la main. Il se dit, c'est un rocher, il va me buter. Ça y est. Eh ben, tant pis. Je lui tire dessus et je le tue. Voilà. Ça, c'est les 7 premiers chapitres. Et la deuxième expédition, qui était finalement pas très très loin, est témoin de quelqu'un qui est mort et de son maître qui n'est pas mort. Et du coup, le 8e chapitre s'ouvre au tribunal. Et on va entendre le juge, quelques adjoints du juge, le marchand, et on n'entendra pas le porteur puisqu'il est mort. Mais par contre, le guide est venu au tribunal. Il faut que je retrouve la page. Et il est venu au tribunal et c'est sa femme c'est la femme du porteur qui ont déjà pris place dans la salle du tribunal. Alors le guide dit à la femme du porteur, vous êtes bien la femme du porteur assassiné? Je suis le guide qui avait engagé votre mari. On m'a dit que vous réclamiez au procès la punition du marchand et les dommages et intérêts. Je me suis dépêché de venir car je sais que votre mari est mort innocent, j'en ai la preuve là, dans ma poche. Ah bon? L'hôtelier, qui était là aussi au procès, qui avait été témoin du limogeage du guide, lui dit, tu as une preuve en poche? Un bon conseil, ne la sors pas de ta poche. Mais le guide répond, et la femme du porteur? Elle s'en reviendra les mains vides? Et toi, tu veux qu'on t'inscrive sur la liste noire? Bon, merci de tes conseils, j'y réfléchirai. Pendant ce temps, le tribunal prend place, l'accusé, et le chef de la deuxième expédition, celle qui était derrière, et l'hôtelier de la station Han, qui est là aussi. « Les débats sont ouverts, dit le juge. La parole est à la femme de la victime. « Mon mari a porté le bagage de ce monsieur à travers le désert. Quelques jours avant la fin du voyage, ce monsieur l'a tué d'un coup de revolver. Je demande la punition de l'assassin, quoiqu'elle ne rendra pas la vie à mon mari. Vous demandez aussi des dommages et intérêts? Oui, mon petit garçon et moi, nous avons perdu celui qui nous nourrissait. » Je ne vous fais aucun reproche. Ces considérations matérielles n'ont rien d'infamant pour vous. Il se tourne vers le chef de la deuxième caravane. À peu de distance de l'expédition Langman venait une seconde caravane. Le guide congédié s'y était joint. Ce sont eux qui trouvèrent, à moins d'un mille de la piste, l'expédition en détresse. Qu'avez-vous vu en vous approchant ? Le chef de la deuxième expédition répond. Le marchand n'avait plus qu'un tout petit peu d'eau dans sa gourde et son porteur gisait, mort, sur le sable. Le juge se tourne vers le marchand. « Avez-vous tiré sur le porteur ?»«
Oui, il m'a attaqué à l'improviste. »«
Comment vous a-t-il attaqué ?»«
Il a essayé de m'assommer avec une pierre, par derrière. »«
Pouvez-vous nous fournir une explication relativement au motif de cette agression ?»«
Ben non. »«
Avez-vous harcelé vos gens, plus que de raison ?»«
Non. »
« Où est le guide congédié ? Il a fait la première partie du voyage avec vous. »«
C'est moi. »«
Quelle est votre opinion ?» Pour autant que je sache, le marchand voulait atteindre Ourga le plus vite possible afin d'acheter une concession. « L'expédition qui vous précédait avançait-elle à une allure très rapide » demande-t-il au chef de la deuxième expédition. Qui répond « Non, pas très rapide, elle avait pris un jour d'avance et elle l'a maintenue. »« Pour cela, il faut que vous ayez forcé la marche. »
« Je n'ai rien forcé du tout, dit le marchand, c'était l'affaire du guide. »
Le juge s'adresse au guide. « L'accusé ne vous a-t-il pas ordonné expressément de faire activer le porteur ?»«
Je ne l'ai pas fait activer plus que d'ordinaire, plutôt moins. »
« Pourquoi vous a-t-on congédié alors ?» Le marchand trouvait que j'étais trop aimable avec le porteur. « Et ça n'était pas permis ? Et ce porteur-là, avec qui il était interdit, dites-vous, d'être aimable, avez-vous l'impression que c'était une nature insubordonnée ?»«
Lui ? Il supportait tout. Comme il me le disait, il avait peur de perdre sa place. Il n'était membre d'aucun syndicat.
Il avait donc tant que cela à supporter ? Répondez, inutile de réfléchir si longtemps avant de parler, la vérité sortira quand même.
Ben, je n'ai accompagné l'expédition que jusqu'à la station Han. »
Le juge s'adresse au marchand. Et par la suite, s'est-il produit un événement de nature à expliquer l'agression du porteur ?
« Non, pas que je sache. »«
Écoutez, ne vous faites pas plus blanc que vous n'êtes. Ce n'est pas comme cela que vous en sortirez, mon garçon. Si vraiment vous avez traité votre porteur avec tant d'égards, comment expliquer sa haine contre vous ? Appliquez-vous plutôt à rendre cette haine vraisemblable. Ainsi, il apparaîtra vraisemblable que vous ayez agi en état de légitime défense. Il faut toujours réfléchir à ce qu'on avance.
Bon, j'ai un aveu à faire. Une fois, je l'ai battu.
Ah, et vous croyez qu'une seule raclée a pu éveiller une pareille haine dans l'âme du porteur ?
Non, mais quand il a refusé de traverser le fleuve, je lui ai appuyé mon revolver dans le dos et en passant le fleuve, il s'est cassé le bras. Par-dessus le marché. Là encore, c'était ma faute.
Au dire du porteur. Naturellement, en réalité, c'est moi qui l'ai repêché. Ainsi donc, après le renvoi du guide, vous avez donné au porteur toutes sortes de raisons de vous haïr. Et avant ?
Il demande au guide, « Reconnaissez-le donc, le porteur haïssait le marchand, d'ailleurs c'est compréhensible, voilà un homme précipité, dans toutes espèces de dangers, moyennant un salaire ridicule, un homme physiquement endommagé, risquant sa vie à tout moment, et pour qui ? Pourquoi ? Pour le compte d'un autre qui ne le paye pas, pour ainsi dire ? Comment ne le haïrait-il pas ? »
Le guide répond, « Il n'avait aucune haine. » Écoutez, écoutons maintenant le témoignage de l'hôtelier de la station Han. Peut-être nous éclairera-t-il sur les rapports qu'entretenait le marchand avec son personnel. Comment le marchand traitait-il ses gens ?
L'hôtelier répond, « Il les traitait bien. »
Comme vous voudrez.
Il a même donné du tabac au guide. Il lui a payé intégralement son salaire. Ce n'est pas courant. Et le porteur aussi était bien traité.
Votre station, la station Han, c'est la dernière station de police sur cette piste.
Oui, ensuite c'est le désert, on y rencontre âmes qui vivent.
Je vois, je comprends. L'amabilité du marchand à la station Han, c'était plutôt une amabilité de circonstance. Une amabilité temporaire, on pourrait presque dire. En temps de guerre, par exemple, plus on approche du front, plus les officiers sont aimables. Ils ne ratent pas une occasion de se montrer humains avec les hommes. De telles amabilités, naturellement, ne signifient absolument rien.
Le marchand reprend. Tout le long du chemin, il chantait en marchant. Dès l'instant où je l'ai menacé de mon revolver, il a complètement cessé de chanter.
Et voilà, il était aigri. Tout à fait compréhensible, bien sûr. À la guerre, je reviens à mon exemple de tout à l'heure. Il était là. Il était là aussi parfaitement compréhensible d'entendre les gens simples dire à leurs officiers « Oui, vous faites votre guerre à vous, mais nous, nous faisons votre guerre pour vous. » Ce sont précisément les propos qu'aurait pu tenir le porteur au marchand. « Tu fais ton affaire à toi, mais moi, je fais ton affaire pour toi. »
Le marchand, encore une fois, répond au juge. J'ai encore un aveu à faire. Quand nous avons perdu notre route, j'ai partagé une gourde d'eau avec lui, mais je voulais boire la seconde tout seul. Et il vous a vu boire ? C'est ce que j'ai supposé quand je l'ai vu venir à moi, une pierre à la main. Je savais qu'il me haïssait. Dès l'instant où nous sommes entrés dans le désert, je n'ai pas cessé, jour et nuit, de me tenir sur mes gardes. J'avais toutes les raisons de croire qu'il m'attaquerait à la première occasion. Si je ne l'avais pas tué, c'est lui qui m'aurait tué. La femme du porteur. J'ai quelque chose à dire. Il est impossible que mon mari l'ait attaqué. Il n'a jamais attaqué personne. Soyez tranquille, lui dit le guide. J'ai la preuve de son innocence en poche. Et le juge pose la question. A-t-on retrouvé la pierre avec laquelle le porteur vous a menacé ? Le chef de la deuxième expédition montre le guide et dit « Cet homme l'a ramassé dans la main du mort. » Le guide se lève et montre la gourde. Le juge « C'est bien cette pierre ? Vous la reconnaissez ?» Le marchand « Oui, oui, c'est cette pierre. » Le premier juge adjoint « Mais c'est une gourde, pas une pierre. » Le deuxième juge « Voilà qui est clair. » Il n'avait pas du tout l'intention de l'assommer. Et le guide se tourne vers la femme du porteur. « Tu vois, je te le disais bien, j'avais la preuve. Il est innocent. C'est moi qui lui ai donné cette gourde à la station Han. L'hôtelier est témoin, et la voici, ma gourde. » Et l'hôtelier « Imbécile, le voilà perdu, lui aussi. » Le juge « Ça ne peut pas être la vérité. Ainsi, il vous aurait tendu à boire. » Le marchand « Mais ça devait être une pierre. » « Non, ce n'était pas une pierre, c'était une gourde. Regardez donc. Je ne pouvais pas prévoir que ça pouvait être une gourde. Cet homme n'avait aucune raison de me donner à boire. Je n'étais pas son ami. »« De fait, il vous a donné à boire, » s'exclame le guide. « Mais pourquoi lui donnait-il à boire ? Pourquoi ?» s'interroge le juge. « Probablement, » reprend le guide, « parce qu'il pensait que le marchand avait soif. »« Sans doute par bonté. Peut-être par bêtise, car je suis certain qu'il n'avait rien du tout contre le marchand. » Et le marchand reprend. Alors, il faut qu'il ait été extraordinairement bête. Voilà un garçon à qui j'ai cassé le bras, que j'ai handicapé à vie. Voyons, ce n'était que justice de sa part de me rendre l'appareil. Ce n'était que justice, dit le guide. Pour une somme dérisoire, cet homme marchait à côté de moi qui ait beaucoup d'argent. Pourtant, la route nous était également dure à tous les deux. Il le sait donc. Quand il était fatigué, je le battais. « Et cela aussi, vous savez que c'est injuste ?» dit le guide. « Admettre que le porteur n'attendait pas la première occasion pour m'assommer, cela revient à admettre qu'il avait perdu le sens. » Le juge. « Donc, vous reconnaissez avec raison que le porteur devait vous haïr. C'est bien cela, n'est-ce pas ? Dès lors, en le tuant, vous avez tué un innocent. C'est vrai, mais uniquement parce que vous ne pouvez savoir qu'il était inoffensif. Oui, oui, c'est une chose qui arrive de temps en temps à la police. » Vous voyez, les policiers tiraient sur une foule de manifestants, des gens tout à fait paisibles. Pourquoi tirent-ils ? Simplement parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment ces gens ne les ont pas déjà tirés à bas de leurs chevaux et lynchés. S'ils tirent, c'est qu'ils ont peur. Voilà tout. Et qu'ils aient peur, cela prouve leur bon sens. Ainsi donc, vous ne pouviez pas savoir que ce porteur représentait une exception. Le marchand. Il faut s'en tenir à la règle, et non à l'exception. Le juge. Oui, voilà. Pour donner à boire à son bourreau, quel motif pouvait-il bien avoir, ce porteur ? Aucun motif raisonnable. La cour va délibérer. Et là, il y a des petites chansons du juge et suivies d'une chanson du guide que je ne vais pas chanter. Le juge, il dit ça. La règle, c'est œil pour œil. Fou qui ose espérer l'exception, un ennemi te donner à boire, n'y compte pas si tu es un homme de sens. Et le guide chante à son tour dans la pièce. Dans le système que vous nous avez fait, la bonté est une exception. Ne te montre pas humain, tu payeras cher ta vertu. Malheur à celui dont le visage est aimable. Retenez-le donc, il veut aider son prochain. On meurt de soif à tes pieds, ferme les yeux. On t'appelle à l'aide, retiens tes pas. Malheur à qui se laisse entraîner. Et donner à boire à un homme... Et c'est un loup qui boit. À la fin de la délibération, le chef de la deuxième expédition, juste avant, lui demande au guide « Vous n'avez pas peur de ne plus trouver de travail ?» Et le guide répond « Il fallait bien que je dise la vérité. » Évidemment, s'il le fallait. Là, ça y est, le juge arrive et s'adresse au marchand. « La cour a encore une question à vous poser. Avez-vous tiré un avantage quelconque en définitive de la mort du porteur ?» Moi ? Au contraire, le porteur m'était indispensable pour traiter mon affaire à Ourga. Toutes les cartes, tous les registres dont j'avais besoin, c'est lui qui les portait. Jamais je n'aurais pu transporter mon bagage tout seul. Alors, ce marché à Ourga, vous ne l'avez pas conclu ? Bien sûr que non, je suis arrivé trop tard, je suis ruiné. Puisqu'il en est ainsi, je prononce le jugement. La cour considère comme prouvé le fait que ce porteur ne s'est pas approché de son maître avec une pierre, mais avec une gourde. Mais que voulait-il faire de cette gourde ? Donner à boire au marchand ? Invraisemblable. On serait plutôt tenté de croire qu'il méditait de l'assommer avec. Le porteur appartenait en effet à une classe qui a des raisons de se sentir lésée. Il n'ignorait pas, raisonnablement, qu'il n'aurait pas la part d'eau qui lui revenait, à moins de la conquérir de force. J'irai plus loin. Les gens de cette espèce ont un point de vue limité et unilatéral. Ils ne voient tout bêtement que ce qui est devant leur nez. Il devait sembler juste au porteur de se venger de son bourreau. Qu'avait-il à perdre à un règlement de compte ? Pour l'instant, le juge il dresse un portrait plutôt raisonnable de ce qui s'est passé. On va voir ce qu'il dit par la suite. Le marchand n'appartient pas à la même classe. Logiquement, il ne pouvait s'attendre à un geste de camaraderie de ce porteur que, de son propre aveu, il avait brutalisé. Sa raison lui disait qu'il était dans le plus grave danger. L'absence de tout être humain dans la région le remplissait à juste titre d'inquiétude. Pas de police, pas de tribunaux. Cela donnait la possibilité à son employé de s'emparer de force de la part d'eau qui lui revenait. Cela l'y encourageait même. L'accusé a donc agi en état de légitime défense. Peu importe qu'il ait été réellement menacé ou qu'il se soit cru menacé, dans la situation où il se trouvait, il devait se croire menacé. L'accusé est donc acquitté. La plainte déposée par la femme de la victime est rejetée. Voilà comment se termine la pièce par une chanson de tous les acteurs qui reviennent sur scène. Ainsi se termine l'histoire d'un voyage. Vous avez vu et entendu, vous avez vu un événement ordinaire, un événement comme ils sont produits chaque jour, et cependant, nous vous en prions, sous le familier, découvrez l'insolite, sous le quotidien, décelez l'inexplicable. Puisse toute chose dite habituelle vous inquiéter. Dans la règle, découvrez l'abus, et partout où l'abus s'est montré, trouvez le remède.
Stessa terra, stessa giungla, ma altra vita, altri occhi quando la sei lunga. Sempre sami e spesi, sempre pesi e corsi. Abite cassaforti, borse fuori, soldi e risorse. Ne siamo geni e geni, diventano pazzi. Guarda che occhi, che capelli e quanti scazzi. Pazzi, perché vogliamo vincere, questo è il fatto. E vivere anche senza un contratto. Ricordi, Rosarno, quello sarà il destino. E una cassetta di cartone nel campo vicino. Il nemico è duro, è muro contro muro. Quando cade palinuro e ne ha preso il futuro. E noi cadiamo in tanti, ma avanziamo in 100.000. Apprendimento, insegnamento, insieme serrano le fila. La testa china, la comunità si raffina. Come va? Che facciamo stamattina? La vedo bene oggi, mica stiamo mogi mogi. Facciamo un giro al centro, rimettete gli orologi. Pare basta oggi, quanta gente all'assemblea. Dall'università al senato le migliori idee. Lì è ressa, polizia al solito ben messa. Pur sempre polizia per definizione. Gente fessa, premiamo sul portone in mezzo alle transenne. Ci vogliono i bei gesti oltre che le belle penne. È stato bello,
a voglia,
è stato bello,
a voglia,
e lo rifamo,
a voglia, a voglia.
Andate nelle scuole, formate i collettivi, organizzate la rivolta, finché siete vivi. Andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne che 10 pistole. Andate nelle scuole, formate i collettivi, organizzate la rivolta, finché siete vivi. Andate nelle scuole, andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne che 10 pistole.
E sai dov'è l'Akbar e dov'è Shiraz? E perché il petrolio va sotto gioco, se il solare e il gas? Chi lo sa dove sta? Meglio non saperlo. Vogliono che lasci scuola e che ragioni come un merlo. Il cervello non lo ha, chi ha paura che reclama. Ma noi siamo Einstein e anche Dalai Lama e anche Che Guevara. E niente ci separa, non c'è tetto alle iscrizioni, nelle ambizioni di chi impara. Così impara o arabo, cinese e portoghese. Così va il mondo, gira il mondo, abbiamo sti pretese. Se non c'è scambio, non c'è conoscenza. E lo scambio lo vogliamo adesso e non abbiamo più pazienza. Abbiamo sete di sapere, vogliamo bere. Ce ne faremo un mestiere, perché sapere è potere. Noi abbiamo scelto, non molliamo mai. La massa al massimo che sceglie è tra media 7 e
Sky. È stato bello,
a voglia.
È stato bello,
a voglia.
E lo rifamo,
a voglia,
a voglia.
scuole, ne ammazzano più 10 belle che 10 pistole. Andate nelle scuole, formati collettivi, organizzate la rivolta, finché siete vivi. Andate nelle scuole, andate nelle scuole, ne ammazzano più 10 belle che 10 pistole. Pubblica, like e solidale, noi la vogliamo. Pubblica, like e solidale, a questi gli andrà male, finché ci siamo noi la scuola sarà sempre pubblica, like e solidale.
Sì, e io l'afferro il senso, lo afferro pezzo a pezzo, e leva il crocifisso e il minuto di silenzio, finché ci siamo noi a questi gli andrà male, la scuola sarà sempre ricca, like e solidale.